La question Facebook va être là dans les prochaines minutes. Êtes-vous d'accord avec la ville de Gatineau qui se prépare à emprunter plutôt que de payer comptant pour ses infrastructures? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'on partage la facture avec des générations futures? Ou si vous préférez, vous, comme contribuable, comme citoyen, que la ville n'ait pas de dette? Et puis là, M. Tessier va nous expliquer ça plus tard ce matin. Combien ça va coûter vraiment de plus au bout du compte, là? En bout de ligne d'emprunter, ça nous coûte-tu vraiment plus cher? Tout ça reste à voir. On va l'entendre ce matin, 7h20. Mais en attendant, vous pouvez aller vous prononcer sur la question Facebook du jour. Êtes-vous d'accord avec la ville de Gatineau qui se prépare à emprunter plutôt que de payer comptant pour ses infrastructures? Je complète la revue de presse aujourd'hui avec le Journal de Montréal. En fait, non, je veux saluer Denis Graton. Quel bon article ce matin sur les objets fétiches Coca-Cola. Une photo qu'il a trouvée, lui, qu'il a en main, qui date des années 1927, si j'ai bien lu. Puis vous savez que c'est très prisé. Les objets de Coca-Cola, il y a des gens qui collectionnent. Alors, c'est le thème qu'il aborde ce matin dans sa chronique. Et il met une photo qui rend pas nécessairement pleinement justice. Elle n'est pas tellement grande, là. Mais quand même, vous voyez vraiment que c'est une vieille photo qui date des années. Puis ça, là, moi, je suis un genre de ramasseux de vieilles affaires, je vais vous le dire. J'achète ça, ces affaires-là. Alors, il y en a beaucoup des collectionneurs d'objets Coca-Cola. Allez lire Denis Graton ce matin dans le quotidien Le Droit. Dans le Journal de Montréal, si vous pensez que Nadia vous casse les baskets avec la circulation le matin, puis elle vous dit à tous les matins que la 50 jusqu'à la hauteur de paiement, ça va être la même chose, là. Ça va être ralenti, puis après ça, congestion, puis après ça, stationnement, puis là, il va y avoir de la neige. C'est toujours pareil. À Montréal, ça va mal. Tout est en reconstruction. Le centre-ville, la périphérie du centre-ville, la jonction du centre-ville, l'échangeur Turcot, c'est l'enfer, OK? Ça a toujours été l'enfer, mais c'est encore plus l'enfer. Et là, ce matin, à la Une Journal de Montréal, ils ont fait une évaluation qu'en 2022, même quand tout va être pas mal fini, les nouveaux axes routiers, la manière que ça va marcher, il va falloir planifier 25 minutes de plus pour traverser Montréal d'un point à l'autre. Ça, c'est des évaluations. Ils sont bons pour vous dire, dans 5 ans, comment de temps ça va vous prendre de traverser le centre-ville, mais ils sont pas capables de vous faire gagner 10 minutes à matin, par exemple. Ils sont bons pour ça. Ils peuvent évaluer la capacité du réseau versus le nombre de voitures qui vont circuler sur certains axes, combien de temps ça va vous prendre en moyenne de plus qu'aujourd'hui. C'est assez poussé comme analyse. C'est à la Une du Journal de Montréal. 2 pages également sur les funérailles de M. Bernard Landry. Funérailles d'État, chapelle ardente. C'est digne d'un grand homme, évidemment. Et les images sont là, les dignitaires sont là. Belle funéraille pour M. Bernard Landry, qui a servi le Québec, bien sûr, comme premier ministre, entre autres, et qui a été à la droite de... comme chef du Parti québécois également, qui a été à la droite de plusieurs grands politiciens au sein du Parti québécois, alors que le Parti québécois était au pouvoir. Également, je vous dis ça de même, Carey Price... Là, ce soir, c'est pas sûr. Carey ou Antiniemi pour le Canadien. Dans le Journal de Montréal, il se surpasse. Carey a donné 37 buts depuis le début de l'année. Allé dans la section des sports, ils ont fait une évaluation. Combien de buts devaient arrêter? 15. Combien de buts étaient arrêtables? 20. J'ai plus les chiffres devant moi, là. Mais en tout cas, il y en a 4 qui n'avaient pas de chance d'arrêter ces 37. Les autres, ils devaient les arrêter. C'est pas mêlant. Allez lire ça, ça me fait rire. C'est la première fois que je vois ça dans un quotidien. Je trouve ça but par but. Ils ont fait l'évaluation du travail de Carey Price. Faut le faire. OK. L'histoire du pitbull à Gatineau qui a mordu un enfant. Hier, en entrevue, on a entendu les commentaires de Mme André Hiss de la police de Gatineau. C'est une histoire qui retient beaucoup l'attention. Évidemment, elle a précisé les circonstances. On écoute comment ça s'est passé.
Ce qu'on a pu apprendre concernant les circonstances lorsqu'on est arrivé sur les lieux, c'est que l'événement se serait produit alors que la fillette jouait avec le chien dans la maison. Donc, pendant l'interaction entre l'animal et la petite fille, là, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi exactement, mais malheureusement, le chien a mordu la jeune fille au visage.
Ça, c'est important parce que, on sait qu'il y a des règlements à Gatineau. Vous avez certaines races de chiens, dont les chiens de type pitbull. Si vous sortez de la résidence, il y a obligation que le chien ait la muselière. Mais à l'intérieur de la maison, quand on reçoit de la visite, ou même avec nos propres enfants, c'est quoi le règlement? Comment ça fonctionne?
Bien, écoutez, il y a plusieurs dispositions qu'il faut prendre. À tout le moins, là, pour le public, quand le chien est à l'intérieur de la maison, il faut qu'il soit contenu, il faut qu'il soit maintenu. S'il est à l'extérieur, il faut qu'il soit dans un enclos où il est retenu. Il faut aussi qu'il y ait une affiche à l'extérieur qui indique qu'il y a un chien potentiellement dangereux dans la résidence. Donc, il y a certaines conditions qui doivent être rencontrées, effectivement.
Vous comprenez l'histoire, là. Fillette de 4 ans, le propriétaire du chien, il l'amène à des amis, j'imagine, ou à la famille, on ne précise pas. Peux-tu garder mon chien? Oui. Garde le pitbull, puis là, la petite joue avec le pitbull. Puis finalement, le pitbull, on ne sait pas. Hein? Ils sont imprévisibles, ces chiens-là. On en a parlé beaucoup. Mort la petite fillette de 4 ans. La muselière, c'est à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Mettez une pancarte. Attention, il y a un chien. Hein? Qu'est-ce que ça donne de dire « Attention, il y a un chien dangereux » À part dire « Je rentre pas chez vous, t'es un chien dangereux », là. S'il y a une pancarte, puis c'est comme moi, c'est ce qui me fait rire, c'est les pancartes qui disent « Attention, quand vous circulez ici, il peut tomber des roches de la montagne. Il peut avoir un éboulement, tabarnane. » Pour ne pas dire autre chose. Ce que je fasse, c'est une roche qui tombe. Je ne la verrais pas arriver. Un chien pitbull, c'est imprévisible. Fait que comment le propriétaire du chien mettrait une pancarte? T'as le choix. Je rentre sur cette propriété-là ou je rentre pas. Puis l'autre chose, si quelqu'un t'offre de garder son pitbull, ce serait peut-être une bonne idée de ne pas le garder. Moi, je dis ça de même. Moi, si un de mes bons chums m'appelle, mettons Louis-Philippe m'appelait et me dit « Mike, peux-tu garder mon pitbull? » Non. Je t'aime, mais non. Tu comprends? Ah, on a une petite sonnerie, une nouvelle sonnerie ce matin. Voilà, merci. Je suis désolé. C'était je ne sais pas du que ça te sort, en tout cas.
Je pense que c'est moi. De mon ordinateur. Désolé.
C'est une belle petite mélodie quand même.
C'est cute.
C'est cute, vraiment, franchement. Hey, l'autre dossier que je voulais aborder avec vous autres, c'est le dossier des commotions cérébrales. La Ligue nationale de hockey, pour la première fois, a décidé de sortir le chéquier. Il y a eu une entente à l'amiable avec les gens qui poursuivaient la Ligue nationale. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs ex-joueurs qui prétendaient que la Ligue nationale avait des responsabilités à l'égard des joueurs qui ont été atteints de commotion cérébrale et qui ont des problèmes dans la vie en raison de ça. Fait qu'il fallait que ça soit... C'est pas n'importe qui. C'est pas parce que tu as joué dans la Ligue nationale que tu es forcément victime de commotion cérébrale. Il faut que tu aies un dossier médical. Il faut que ça ait été répertorié, que tu as été frappé puis à un moment donné blessé, absent de l'action. Il faut que, dans ce cas-ci, on ait la preuve que tu as raté du temps de jeu en raison de maux de tête ou de commotion cérébrale. Ce qui se passe avec la Ligue nationale, c'est qu'on a fait un règlement à l'amiable. Et si j'ai bien lu au niveau des chiffres, il y avait 176 joueurs de la Ligue nationale qui poursuivaient le circuit Bettman. Et plutôt que d'aller devant les tribunaux, la Ligue donne de l'argent, mais ne reconnaît pas ses responsabilités. On évite d'aller dire devant la Cour que oui, finalement, on était au courant, on savait, puis on a utilisé quand même les joueurs, on les a mal informés sur les conséquences des commotions cérébrales. Le problème, c'est que tu peux jouer avec une commotion cérébrale, puis la Ligue nationale va dire « Écoute, Mario, tu es en commotion cérébrale, tu ne peux plus jouer demain soir ». Mais la Ligue t'informe pas que plus tard, à 50 ans, ça se peut que tu trembles, t'aies le Parkinson, que tu ne te souviennes pas du nom de tes enfants. Ça, la Ligue nationale ne l'a jamais dit. Et eux autres, ils peuvent prétendre que la Ligue le savait. Parce que des spécialistes, comme M. Polamalu, le gars qui est venu faire le ménage dans le football, ces gens-là ont avisé les circuits principaux professionnels des conséquences des commotions cérébrales. Les études sortent. Alors, la Ligue a sorti son chéquier. On parle d'un règlement de quelques milliards de dollars, de quelques millions de dollars, et les joueurs vont toucher, je pense, ceux-là qui étaient inscrits à la poursuite, 22 000 $ chacun, si je comprends bien. Mais c'est pas fini, là. Il y en aura d'autres, là. Il y a un autre groupe de 300 quelques joueurs qui se préparent aussi à intenter un recours contre le circuit Bettman. C'est pas terminé. Mais au moins, il y a, à mon avis, dans le chèque qu'on fait, une reconnaissance d'une problématique. Et ça, quand en haut, ça travaille comme ça, là, ça veut dire qu'en bas, même si on est proactif dans les circuits de développement junior, dans le midget, dans le hockey mineur, ça va avoir une incidence là-dessus. Vos enfants, quand ils vont jouer au football ou encore au hockey, là, il y a maintenant, c'est répertorié, il y a des risques. Puis les risques, c'est pas qu'il soit une commotion, puis les conséquences cette année, c'est plus tard. Moi, j'en ai fait 4-5 commotions cérébrales, des solides. Perte de mémoire et tout, là. Et des fois, la mémoire à court terme n'existe plus. J'ai comme des trous. Fait que là, je me souviens plus quelle heure. Faut que tu fasses une pause, Richard? Oui, on va en faire tout de suite. Okay? Mais c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité pour ces gens-là. Pour avoir travaillé un petit peu pas mal avec Dave Morissette, je peux vous dire une chose. Vous le voyez à télé, il est bien cute, il est bien fin, mais il est des fois mêlé. Et mêlé, le mot est... Puis c'est de même. C'est ça, là. C'est carrément ça. Dave, à la fin de sa carrière, il allait frapper un joueur sur la glace. Le gars était sur le derrière dans la bande, puis lui, il allait s'asseoir sur le mauvais banc de la mauvaise équipe, parce qu'il était lui-même en commotion quand il frappait quelqu'un. Et ça, forcément, ça a des répercussions par la suite. Des petits trous de mémoire, des petits problèmes de ci, de ça. Ça sort. Alors imaginez pour ces joueurs-là qui vont être compensés, on verra bien la suite des événements.